L.L. Smith, S.M.I.T.H. Thank you. And for the recording record, this is the board with a non-commercial stakeholder group, 15:30 on Tuesday.
Welcome, everybody.
Bienvenue à tous. Nous sommes à la réunion du board. Nous allons écouter le groupe des parties prenantes non commerciales. Nous avons trois, c'est bien ça? Groupe représenté, c'est Steve Crocker qui parle. Je vais passer la parole, comme nous le faisons de manière régulière. Notre ordre du jour est déterminé par vous. Et nous sommes prêts à commencer. Allez-y. Merci, je m'appelle Avery Dorian. Et je prends la place de Robin Gross, qui n'a pas pu venir. Elle est directrice du NCSG, qui est composée de deux groupes, NPAC et NCUC. Nous avons soumis plusieurs questions, mais nous allons en fait établir un ordre différent de questions, étant donné les conversations qui se sont produites. Première question, en ce qui est de l'engagement d'ICANN par rapport au modèle ascendant conduit par la communauté pour la gouvernance Internet. Pour ce qui est de notre politique, on s'est dit qu'il n'était pas nécessaire de poser cette question parce qu'elle n'est pas assez spécifique. À notre avis, il est trop facile d'y répondre. Le board allait répondre de manière trop facile en disant « Oui, bien sûr que nous sommes engagés par rapport à ça, par rapport à cette politique ascendante. » Donc, nous avons décidé de passer sur cette question et j'espère que cela ne pose pas problème. OK, chose suivante. Oui, chose suivante. Alors, si vous voulez bien passer à la diapositive suivante, notre question suivante, c'est donc la revue du GNSO et la restructuration. Donc, clarifier où va le board en termes de l'alignement, des efforts à court terme des groupes. Et j'espère que nous pourrons avoir des commentaires et des questions du board. Oui, merci Avril. Donc c'est Wolfgang Klein-Wachter. Oui, je crois qu'il est très bien que nous continuions cette communication entre notre groupe et le board. Les discussions sur cette question, c'est principalement quelles vont être les conséquences pour le groupe des multiparties prenantes. À la fois du point de vue des organisations qui nous soutiennent et de leur groupe. Que pouvons-nous faire pour garder l'équilibre entre les groupes commerciaux et non commerciaux et trouver des moyens pour que les intérêts soient reflétés de manière adéquate pour tous? Nous avons vu un certain nombre de propositions qui, à mon avis, ne sont pas encore officiels, l'établissement de nouveaux registres, les géos souhaitent avoir leur propre registre, et notre question c'est, qu'est-ce que vous anticipez? Que se passe-t-il? Y a-t-il des politiques, des plans, des idées? Comment voulez-vous réagir par rapport à ce point? Merci. Merci, dit Avery Dorian. Est-ce que quelqu'un du NC souhaite ajouter quelque chose à ce point, du NCSG souhaite ajouter quelque chose à ce point? Oui, allez-y. Oui, merci, dit Bill Smith. Je ne sais pas exactement où la formulation a été trouvée pour cette question, mais en termes d'aligner les efforts, j'aimerais donc parler de cela. Chez le NCUC, nous avons beaucoup travaillé depuis notre dernière élection pour, en fait, renaître, si vous voulez. Je vais passer sur les détails, mais énormément de travail a été investi en termes de l'avenir pour travailler de manière plus efficace. Maintenant, notre tâche suivante, c'est la question du règlement, de nos statuts qui sont anciens et qui ne reflètent pas vraiment la façon dont nous fonctionnons. Pour ce qui est de la suite du travail à faire sur ce point, eh bien, selon le board, quelle est l'évolution à venir? Parce que pour nous, investir beaucoup de temps pour revoir notre règlement n'a pas beaucoup de sens s'il y a une restructuration plus large qui se met en place et qui ne correspond pas à ce que nous faisons. Donc, selon ce qui nous a été dit dans les conversations avec des membres du board sur ces restructurations, sur ce qui est spéculé par rapport à ça, eh bien, certains d'entre eux nous soutiendraient. Je ne sais pas si vous vous souvenez de notre discussion à l'époque de Séoul. On s'était dit qu'il ne fallait pas passer beaucoup de temps à s'occuper des différents cas. Donc, s'il y a une possibilité de changement qui pourrait avoir un impact sur nous, eh bien, il faut absolument que nous en soyons conscients pour que nous ne passions pas énormément de temps à faire quelque chose qui finalement corresponde à un changement qui n'aura plus aucun effet. Merci, dit Avril Doria. Je crois qu'à la base, il y a une certaine jalousie. Il y a donc les registraires avec leur nouveau groupe d'intérêt qui font certaines choses que nous avions essayé de faire mais qui avaient été rejetées. Donc, en partie, dans cette question, nous avons cela. Alors, la question qu'on se pose, c'est si Ray ou quelqu'un d'autre pourrait traiter de ce sujet. Oui, je me disais exactement la même chose, dit Steve Crocker. La réponse à la question, c'est oui, je pourrais en parler, dirait Plazac. Tout d'abord, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, qu'il y a des améliorations de la structure qui ont été engagées par le comité, et surtout en ce qui concerne l'impact des nouveaux GTLD sur ICANN et sur le NGSO. Donc, je ne vais pas en parler davantage, mais pour appuyer là-dessus, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire en termes des groupes d'intérêt spécifiques. Le problème qu'il y a, et je pense que vous en êtes conscient, c'est que il n'y avait pas de processus existant pour amender les chartes ou pour mettre en place une charte. Donc, ceci étant, la décision qui a été prise, je ne sais pas si c'était la bonne décision, la décision la meilleure, mais quoi qu'il en soit, la décision a été prise. Nous allons approuver cet amendement aux chartes, mais il y avait également des commentaires qui ont été postés ou publiés, et je crois que la période de commentaires est toujours ouverte jusqu'à la fin août, me semble-t-il. Donc, vos commentaires sont les bienvenus là-dessus. En ce qui concerne ce qui va se produire à l'avenir chez ICANN, et on en a parlé un petit peu hier dans la séance sur la planification stratégique qui s'est produite juste après la cérémonie d'ouverture, avant que la salle soit vidée, le board a fait un exercice relativement similaire pendant 2 jours au mois de mai, et beaucoup des sujets qui ont été soulevés pendant les discussions en termes des impacts, etc., tournaient autour du GNSO et du problème soulevé en ce qui concerne les nouveautés. Et c'est exactement ce que Bertrand a soulevé lui aussi. Donc, ma réponse rapide, c'est oui, les choses doivent changer. Maintenant, le modèle des groupes ne fonctionne pas pour l'avenir, pour un certain nombre de raisons. Cela ne veut pas dire qu'on va l'éliminer. Simplement, il faut qu'il y ait des structures qui puissent permettre de reconnaître qu'il va y avoir beaucoup de groupes différents. Et donc, il faut pouvoir accommoder la structure, mais et aussi les processus à cela. Et ce qui est important, surtout, c'est le processus d'établissement, de constitution des politiques et le processus de gouvernance. Et je crois que les résultats, et donc c'est là-dessus que votre point de vue sur le processus stratégique est important. Bien évidemment, c'est pas facile d'avoir tout un tas de perspectives, mais selon mon expérience, plus on planifie, plus on passe le temps à la phase de planification, plus elle est facile à exécuter. Sinon, si on fait les choses trop rapidement, en général, il faut réparer les problèmes ou solutionner les problèmes. Donc, bien sûr, on ne va pas dire aux gens de faire les choses trop rapidement. Tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que le board ne peut pas travailler seul. Et en ce qui est du comité d'amélioration structurelle, il ne peut pas faire son travail tout seul. Et le travail que Denise a lancé hier dans le cadre de la planification stratégique, eh bien, la communauté doit être impliquée également. C'est vraiment une question de participation, une question d'aller au-delà de là où nous en sommes aujourd'hui et de réfléchir à ce à quoi ICANN va ressembler dans 5 ans. À quoi la structure va-t-elle ressembler? Est-ce que vous souhaitez avoir des entrepreneurs très larges, un groupe très large d'entrepreneurs avec des groupes, ou est-ce que la structure doit être différente? Donc, est-ce qu'il faut s'adresser à des intérêts plus larges, à des intérêts plus étroits? Nous savons tous où nous voulons en arriver. Maintenant, la question demeure dans le processus. Comment allons-nous y arriver? Hier, au Conseil GNSO, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de débats par rapport au statut et au règlement. Et j'ai exprimé l'opinion que ceci n'appartient pas au statut ICANN. On peut référencer le GNSO, le statut du GNSO dans ICANN, mais pour son fonctionnement à lui, cela lui appartient. Donc, il faut vraiment penser comme ça, je pense, à l'avenir. Et à mon avis, il me semble qu'il y a différentes manières d'aborder la structure. Et je sais que si je m'étends sur ces différentes manières, je pourrais vous la détailler, mais je crois que il faut impliquer davantage de protagonistes dans cette discussion. Je crois qu'il faut instaurer un dialogue significatif. J'espère que ma réponse n'est pas trop ne vous pose pas de confusion, mais je dois vous dire que il faut. La seule chose que je vous demande, c'est votre coopération pour qu'on arrive à notre travail. Et ensuite, j'aimerais que Bertrand nous parle un petit peu plus de l'impact des nouveaux GTLD. Et il est clair que je ne vais pas dire à qui que ce soit d'être hésitant ou d'être vague. Je ne vais pas dire à quelqu'un qu'il est vague ou hésitant, c'est clair. Mais j'aimerais rajouter quelque chose avant de passer la parole à Bertrand. Je crois qu'il est important de considérer les prévisions, mais il y a des problèmes par rapport à ces groupes. Par exemple, la lettre qui a été envoyée au board, que nous avons envoyée au board, sur le sujet des efforts, du temps que nous avons passé pour la création des différents groupes, par rapport à la naissance de ces nouveaux groupes. Cela fait déjà 2 ans que cela existe et on n'arrive pas à avoir un siège à NCOM comme les autres GNS, comme le GNSO ou les autres groupes. Donc, 5 ans, c'est bien pour l'avenir, pour le calendrier de l'avenir, mais nous avons des soucis actuels. Maintenant, je passe la parole à Bertrand. J'aimerais quand même répondre rapidement, dit Ray Plazac. Je vous ai entendu, je comprends et nous allons essayer de répondre à vos questions, mais nous avons aussi, nous devons nous occuper des alligators tout en essayant de nous occuper de l'étang en même temps. Donc, je crois que nous souhaitons ne pas trop nous impliquer, nous immiscer, si vous voulez, dans les groupes. Donc, je n'ai pas vraiment de meilleure réponse à vous donner pour l'instant. Bertrand, s'il vous plaît. Oui, merci. Pour faire le suivi par rapport à ce que Ray dit, le sujet, l'évolution structurelle de l'organisation actuellement et certaines discussions qui ont eu lieu très tôt à Toronto et après, nous montrent qu'il y a une tension dans cette discussion en termes de l'évolutivité du modèle, comme il a été mentionné, et puis également l'évolution, le fonctionnement du développement de la politique. Il y a eu des discussions très intéressantes au cours des jours derniers par rapport aux perceptions. Est-ce que le modèle fonctionne ou non? À cette étape, la question clé, c'est qu'il n'y a pas réellement de vision spécifique du board par rapport à l'évolution, ce qu'elle doit être. Et donc, ce qui nous préoccupe, c'est que la discussion ait lieu. Donc, sur ce point, au-delà du lancement des sujets qui ont été faits par rapport à ce qui a été initié par le comité de changement structurel et d'autres groupes, une chose qui est claire, c'est que un des comités que Fadi Shahadé a annoncé lundi les panels qu'il souhaiterait former devraient traiter justement de cette évolution du modèle multipartite et en particulier de ce que nous allons faire et comment il va fonctionner. Donc il va y avoir une discussion. C'est une discussion qui ne sera pas nécessairement inclue au plan stratégique mais qui ira plus vite. En termes de discussion, ces panels vont durer environ un an. Donc la question clé, c'est comment la discussion va-t-elle être organisée dans ces panels? Et de ce point de vue, il sera important de voir comment est-ce que la discussion sera conduite dans la communauté. Parce qu'il est essentiel que l'avis des uns et des autres, la discussion soit menée par la communauté et non pas uniquement par les 5 ou 6 personnes du panel. Donc, là-dessus, la question qui était donc les efforts à long terme et la perspective à court terme, je crois qu'elle est moindre dans le contexte du NCSG et encore moins dans le cadre des parties contractuelles. Cependant, la question que vous avez est très intéressante en termes de l'équilibre entre les différentes structures. La structure actuelle du NGNSO est basé sur un équilibre des deux chambres, si vous voulez. Maintenant, si le nombre d'acteurs ou de protagonistes d'un côté est supérieur à l'autre, il peut y avoir un problème. La conséquence naturelle de la constitution de nouveaux groupes en ce qui concerne la présence à NANCOM, et Ray en a parlé, c'est quelque chose que nous discutons actuellement. C'est un petit peu difficile. Nous avions envisagé de développer un processus d'analyse NOMCOM plus rapide ou partiel pour qu'il y ait une règle là-dessus. Et il semblait un petit peu étrange de lancer un autre type d'analyse ou de revue dans un autre camp. Donc, un des enjeux, c'est que le modèle ICANN d'analyse ou de revue est difficile de changer dans une structure parce que cela aurait un impact sur les autres. Et pour l'instant, en tout cas, c'est mon sentiment que de plus en plus, nous en sommes à un moment où la création des nouveaux programmes GTLD remet sur ICANN la responsabilité de s'adapter au nouvel environnement que nous créons. Et donc, cette nouvelle période, pour moi, s'ouvre à nous maintenant. Et c'est pour cela, précisément que le panel et la discussion qui aura lieu au sein de ce panel est importante et il est important d'y participer. Merci.
Et vous, Doria, merci. Oui. Serait-il, Bruce Tompkins, de savoir ce que vous avez, ce que vous allez faire, de savoir, de connaître la position du board là-dessus? Quelle méthode, à quelle méthode pensez-vous pour que nous puissions comprendre? J'aimerais préfacer cela en disant que, en parlant des discussions que nous avons eues au board, autour, par exemple, des silos, avec cette perception qu'il y a trop de silos à ICANN, que le board doit discuter des différences entre chaque silo. Nous parlons des réformes ou des réformes supposées qui devraient se passer au sein des groupes de travail. Je me demande si cela est en place ou si, comment cela pourrait être plus efficace. Quel changement avez-vous en tête? Avery, Doria, je ne suis pas sûre quand et comment, quand je dois vous donner une idée des changements que nous avons en tête. Je n'ai pas le temps parce que nous avons encore quatre sujets à discuter, quatre éléments à discuter. C'est quoi que c'est difficile d'être responsable, n'est-ce pas, Avery? Non, pas vraiment. Je voulais vous dire que nous devons stabiliser la situation actuelle alors que nous parlons d'une situation à long terme. Et c'est le point que j'ai fait au propos de NPOC et de NONCOM. En tant que groupe de travail, je pense qu'ils travaillent. Nous avons une conversation avec GAC ce matin. Et NCUC, nous avons vu qu'ils avaient des juniors dans leur ministre, dans leur groupe. Pourquoi ne travaillent-ils pas dans des groupes de travail? C'est une conversation que nous devons engager. Je sais que j'ai beaucoup, beaucoup d'idées, comme beaucoup de membres de NCUC ont des idées aussi, des centaines d'idées. Ou c'était Ray, peut-être. Oh. C'est à vous de décider entre vous. Vous êtes les membres du board. Ouais, je voulais juste répondre rapidement. Je voudrais que le comité s'engage, participe avec vous ou qui que ce soit dans le groupe. Je voudrais vraiment, je suis très intéressée à obtenir vos idées. Nous, en tant que comité, nous avons besoin de connaître ces sentiments alors que nous passons à travers le processus pour décrire comment pouvoir faire les choses. Je suis heureuse de pouvoir vous parler, de pouvoir aller vous discuter de cela avec vous quand ce sera possible. Erika, l'allemande est au micro. Je vais suivre ce que Bruce a dit et Ray aussi. C'est important que vous sachiez où nous en sommes à cette étape. Il y a beaucoup de choses qui changent. Beaucoup de nouveaux développements sont mis en place. Des choses doivent être reconfigurées. Je pense que c'est pertinent de tenir les points les plus importants, les points les plus pertinents. Vous savez, sinon, nous allons revenir en arrière et le processus redevient très long. Et c'est pour ça que nous apprécierions vraiment. Avery, nous sommes toujours prêtes à parler avec vous en plus de détails. Erika, non. J'ai parlé ce matin avec les boursiers et chaque fois que je parle avec eux, je me demande quelles sont les différences entre les groupes, pourquoi la cité civile est départagée de cette manière, comment dois-je décider où je vais aller, quels sont les mérites de telle ou telle chose. J'ai passé beaucoup de temps à parler des différentes structures et les différentes fonctions de ces structures. À la fin de la journée, c'est tellement compliqué. C'est un gaspillage d'énergie. On pense tellement de temps, passe tellement de temps à construire ces structures qui nous divisent, les non-com, l'espace non-com. Et cela nous bloque, n'empêche de nous concentrer sur les travaux de politique sérieux. Je passe 30 heures par semaine pro bono pour faire de l'administration. En tant que président, moi j'en ai marre, voudrais vraiment voir une évolution, un changement vers une vision plus intégrée de l'espace de la société civile de l'ICANN pour que les gens puissent passer leur temps à faire du travail sur les politiques. Ah vrai, oui, je dois admettre que depuis que je ne suis plus président de NCSG et que je fais du travail pour les politiques, ma vie est plus facile. Ça, c'était une semaine intéressante de revenir vers le côté administratif des choses. Pour passer au prochain sujet, qui était le développement d'une stratégie outreach inclusive de réduire la participation dans l'ICANN. Nous allons avoir l'introduction sur le sujet par Rémi. Merci, Avery. En regardant le processus de l'ICANN en termes d'inclusivité, nous ne voyons pas le nouveau batch de nouvelles personnes que nous attendions de voir. Et je veux voir vis-à-vis du board ce qu'ils vont faire. Voir avec le temps si un groupe de personnes qui continue à circuler, ce groupe de gens il y aura des problèmes de base de structure si les gens continuent à bouger. Comme on l'a déjà dit, nous devons nous assurer que le modèle multipartite de ICANN est soutenu. Et ne change pas. Merci. Avery, merci. Steve, je vois que vous avez poussé le bouton avec vous. Vous voulez faire un commentaire ou quelqu'un d'autre veut faire un commentaire? Steve Crocker. Je n'ai pas une réaction immédiate. Quelqu'un veut répondre? Je vois. C'est un défi dans tous les parties de l'organisation d'amener des personnes nouvelles et de s'assurer que toutes les portions de l'organisation sont vitales et envigorées, disons. Les efforts qui sont mis en place dans chaque groupe pour amener des nouvelles personnes, ce serait certainement la prochaine question que j'aurai en tête. Avery, merci. Ensuite, Bill veut faire un commentaire. Central Sickman pour MPOC. Je pense que c'est une question en deux étapes. Comment est-ce qu'on fait assez de outreach pour faire participer plus de nouvelles personnes? Il faut aussi assurer la continuité. Je me souviens que ICANN avait des plans pour un espèce de gérant de connaissances, un département pour pouvoir partager les connaissances. Est-ce que c'est toujours en cours? Steve Crocker, je pense que cette idée d'une espèce de manager de connaissances a évolué et a pris une autre forme. Nous avons une plateforme que nous sommes en train de mettre en place. Peut-être quelqu'un du personnel d'ICANN peut en parler. Merci, David. David, merci. Il y a des tas de références. Si vous cherchez un cadre de travail dans l'ICANN, il y a eu des webinaires qui ont été conduits par Sally. Il y a eu Il y a eu même une session durant la réunion ICANN cette semaine. Je cherchais exactement quand il y avait une plateforme numérique qui va être annoncée, qui va être disponible. On aura donc un moyen d'apprentissage en ligne. C'est un peu le cadre de travail dans lequel les gens peuvent... puisse mettre du contenu, apporter du contenu. Il y aura des vidéos, des cours qui seront utiles pour toutes les diverses communautés pour pouvoir ainsi expliquer comment les choses doivent être faites. Et ce sont les éléments que nous sommes en train de considérer en ce moment à Durban durant cette réunion. Et cela est conduit à travers des webinaires. Avery, merci Bill. Bill, j'aurais juste vous dire qu'avant que cette réunion commence, des gens ont participé à une conférence, une mini-conférence sur la gouvernance par l'association. L'association NIPAD, NCUE qui ont travaillé là-dessus. Nous avions 8 de nos gens qui étaient là en tant qu'orateurs. Il y avait 4 participants africains. Ils étaient très énergiques, très dynamiques. Nous avons eu de très bonnes conversations. Nous avons fait cela sans le soutien d'ICANN, sans l'argent d'ICANN. Nous avons fait ça nous-mêmes. Et je regarde tous les emails que je reçois du personnel sur ce qu'il s'agit des stratégies d'outreach, etc., et les budgets et les plans style Arthur Anderson, les matrices avec les tables de 14 par 14, toutes les variables qui ont été prises en compte et tout ça. Il semble qu'il y a une carence entre ce qui se passe au niveau de un niveau communautaire et au niveau institutionnel. Et j'espère que nous pourrons trouver une manière de mélanger les deux et d'équilibrer ça de meilleure façon et de travailler vis-à-vis de plutôt vers la communauté. Je pense que nous devrions faire des choses partout où nous allons à travers le monde qui soient menées par cette approche communautaire. Et par exemple, de mise en place de groupes locaux, au lieu de développer des plans très technocrates. Merci, Avery. Merci, Bertrand. Bertrand de la Chapelle. En parlant de ces choses-là, c'est quelque chose qui est partagé à travers tous les groupes. Tout le monde en est conscient au niveau du staff, du personnel. Le outreach, l'effort qui est mis vis-à-vis du outreach, surtout vers le gouvernement, en utilisant le langage de la communauté dans chaque groupe. J'avais la même discussion, par exemple, avec les gens du CCNSO ce matin, ou par exemple, même dans la préparation des plénipotentiaires ITU, il y aurait des conduits intéressants pour identifier de bonne heure dans chaque pays respectif quelles sont les personnes qui seraient en attendance. Ce genre de choses mettre à profit les chapitres ISOC, les groupes commerciaux, mettre à profit les membres CCNSO, les membres du GAP. C'est un équilibre qui doit être maintenu et c'est clairement en tête de l'équipe qui est en charge de la participation et de l'engagement. Merci, dit Avery. Avery, on a commencé un peu tard, mais il ne nous reste que 18 minutes. Est-ce qu'on peut passer quand même à la prochaine question? Non. On a les éléments du board aussi. Est-ce que vous pouvez les mettre, cette diapo? Parce qu'on n'a jamais vu, on n'a pas vu ces éléments du board avant. On peut, s'il vous plaît, passer au prochain sujet puisqu'on... Non, bon. Le prochain article, la prochaine question, c'était l'article 29, la lettre des partis qui travaillaient, la lettre du 6 juin 2013 qui disait que ICANN a proposé un RA qui viole les droits de la vie privée des Européens. Merci Avery. Nous allons parler de l'article 29. J'ai juste reçu des commentaires. Nous avons la même question et ma réponse est de leur dire, vous savez, c'est comme avoir une bouteille de Pepsi et une bouteille de Coca devant vous. Et nous sommes Coca-Cola. C'est supposé être une blague. C'est juste une blague. Ne soyez pas offensés. Article 29. Nous voudrions faire référence à la réponse de VP Cyrus. Excusez-moi si je ne. Réponse à Cyrus Namaz. Le VP de ICANN a dit que ICANN avait considéré que l'article 29 faisait autorité, mais ce n'est pas ce n'a fait pas autorité légale. Nous allons voir cette réponse. On voit le mot autorité légale et cela est compris comme si c'était un ordre du juridique. C'est une lettre, l'article, la déclaration de l'article 29 est une lettre, ce n'est pas un ordre légal, ce n'est pas un mandat de la cour, du tribunal, c'est juste une opinion légale qui vient d'un corps européen qui représente les représentants de 27 autorités de protection de données. Aussi, cela comprend un représentant du superviseur de la protection des data, des données, et aussi quelqu'un de la Commission européenne. Donc, cette déclaration de l'article 29, nous pensons que ça doit être basé sur des bases légales, et ainsi, ICANN devrait prendre ça en compte. Merci. Merci beaucoup, dit Steve Crocker. Erika, voulez-vous faire un commentaire? Erika, je ne veux pas faire de commentaires. Je pense que Nigel devrait commenter là-dessus. Juste quelque chose rapidement. Comme vous l'avez dit, c'est une opinion. C'est quasi légal, du droit légal, oui, absolument. Cela dépend de juridique, cela. C'est absolument pris au sérieux. Mais je voudrais laisser Nigel répondre à cela. Quelqu'un qui veut donner plus d'informations là-dessus, je serais vraiment heureuse d'en parler plus tard. Merci. Nigel, au micro. Je ne peux pas parler pour Cyrus puisqu'il n'est pas là. Mais il a fait une réponse assez compréhensive durant beaucoup de réunions aujourd'hui. Donc, le record va montrer ses témoignages. Ce qu'il disait au GAC, c'était que essentiellement, c'est quelque chose de très important. Cet article 29 qui a été fait sous la directive de la protection des données en Europe, c'est un parti qui est important, qui a 27 représentants dans la République, dans l'Union européenne. Cela donne des conseils. C'est un comité de conseil important. Cela, c'est une lettre très importante. Ce n'est pourtant cependant pas une lettre qui dit c'est l'exigence juridique. C'est juste une opinion et qui doit être regardée d'une façon sérieuse. Cela parle des accords, des registres, des registraires et des discussions qui sont en cours avec les registraires, qu'ils soient en Europe ou ailleurs. Et les exigences de cet accord avec les requêtes vis-à-vis des lois locales, les lois qui sont européennes, tout cela doit être pris en compte. Avery, merci. Bertrand Lachapelle. Sans introduire de nouveaux éléments, je voudrais faire un commentaire général. Il doit y avoir un traitement unique les agences individuelles de chaque pays soient faites de façon coordonnée, que les informations rentrent à ICANN doivent être traitées de la même façon, quelles que soient les agences. Le fait que l'article 29 n'est pas quelque chose de formel, c'est l'équivalent de défense de l'homme qui viendrait et dans les processus d'ICANN pour nous fournir des recommandations pour les incorporations des accréditations des registraires. Ce sont des agences indépendantes. S'ils ont une position jointe, elles doivent être prises en compte. Elles doivent être des informations valables qui doivent être prises en compte. Et oui, merci.
Bien, donc je crois qu'on va passer au prochain, à la prochaine question. J'ai l'impression que cela semble un problème non résolu qui requérerait davantage de discussion. Ah oui, Rudy. Oui, en tant qu'Européen, il est important que les opinions européennes soient exprimées. Peut-être que le parti au travail devrait demander une décision du tribunal pour que cela soit explicite et pour que cela ne demande pas, pour que ce soit pas seulement explicite et que ce soit vraiment une impasse dans de la législation entre infra-frontalière, transfrontalière, et que cela ne s'applique pas à certaines régions et cela s'applique à d'autres. Je pense que c'est une des questions auxquelles nous sommes confrontés, d'autres aspects de l'Internet qui ne s'arrêtent pas pour le board. Avri Doria, merci. Prochaine démarche. Yes, Aléry, Erika. Oui, je pense que il y aura la législation de rétention de données européennes sera revue, je pense, et il y aura une chance à nouveau pour nous, je crois, ce sera fait. Et la loi sur la protection des données privées est en examen également, et cela produira peut-être l'année prochaine. Et, dans l'Union européenne, peut-être la législation sur le respect de la vie privée, peut-être même après, en fonction de combien de temps que ça prend dans la Chambre et au Parlement. Et la rétention des données en examen, telle que toutes les législations oui, avec les ententes internationales, les pays, donc nous allons voir quel type d'implication surgit dans le cadre pour ICANN ou pour d'autres organisations internationales. Avri Doria, merci. Dernier commentaire, sinon on veut aller au prochain point. Mais quand on a monsieur prend la parole, quand vous avez des conflits d'opinion, je me demande comment est-ce que vous, quel processus vous utilisez pour déterminer celui qui est probablement vrai, quand on n'a pas d'autorité juridictionnelle. Et quand vous voyez quelque chose, alors que le texte dit que tout le monde peut, quelque chose que tout le monde peut comprendre et qu'il ne devrait pas être retenu, vous savez, l'autorité en elle-même. Et je pense que le PDP de l'autorité, c'est que les 29 parties au travail va probablement être celui qui est vrai, le Working Party 29. Merci. J'ai l'impression que la vente aux enchères est votre solution préférée, il me semble, dit Steve Crocker, qui demande que ce soit le public qui tranche. On préfère les solutions numériques, dit Mike Silber, l'archerie digitale. Avri Doria, donc on a remarqué, est-ce qu'on peut revenir à quelques diapositives en avant, s'il vous plaît? Je voulais aller plutôt la prochaine. La prochaine question porte sur le problème de reconsidération que nous avons devant le board au sujet de trademark plus 50. Je ne sais pas si vous avez noté que vous avez remarqué cette lettre, mais c'est une demande pour un processus d'engagement de communauté. David Cake, d'accord. Donc l'ensemble de l'historique qui va jusqu'au trademark plus 50, je ne sais pas je ne veux vraiment pas y aller au fond, mais on sait qu'il y a beaucoup de cela, mais on n'est pas vraiment entré dans la demande de reconsidération avec beaucoup d'optimisme. Ce qu'on a obtenu, c'était bien pire que ce dont on s'attendait. Et je crois qu'en général, je crois, vu que c'est une problématique pour tout le monde, la demande de reconciliation non seulement était qui non seulement rejetait notre demande, mais également une justification qui, on avait l'impression que c'était écrit par des avocats externes pour donner un maximum de raisons pour rejeter cela. Je peux mettre de nouveaux arguments qui n'ont pas été soulevés dans le processus à ce moment, mais des arguments qui sont si forts qu'ils ont obtenu des réactions ailleurs de la communauté. Mais auparavant, on ne s'intéressait pas beaucoup à la question, par exemple, en demandant qu'on devait écouter le conseil GNSO aussi, c'était le résultat d'un PDP. On ne devrait pas citer, même lorsque Fadi témoignait au Congrès, on ne devrait pas le prendre trop sérieusement. Donc des arguments très vraiment extraordinaires. Tout ça a été la justification a été retirée. Donc je ne veux pas aller dans les détails. Je crois qu'on est d'accord en général que ce n'était pas bon, mais on était très préoccupés pour savoir comment ça s'est passé pour qu'on ait une réponse si extraordinaire. Ce qu'on devrait faire pour, mais presque toutes les demandes de reconsidération, Fadi peut le dire, ont toujours. De ce qu'on le sait, elles ont toujours échoué. Donc, le board pense que nous utilisons le processus de manière erronée. Donc, comment on devrait l'utiliser correctement? Et s'il est très probable que ce type de requête pour la reconsidération passe dans cette sorte de situation, est-ce qu'il devrait y avoir un processus ou de reconsidération d'une décision que nous pensons être erronée? Vous savez, quel type de reconsidération? Peut-être qu'il devrait y avoir un processus qui nous pensons être une demande pour reconsidération devrait faire, même si le modèle actuel ne le fait pas. Steve Crocker, je vais donc offrir ceci, mais ma pensée, la justification que a été reconsidérée et retirée et réécrite. Je pense que sous forme d'une action, en parlant plus, avoir plus forte que des mots, une déclaration forte qu'il y avait un accord, qu'il y avait une erreur faite en mettant en avant la justification. Je sais qu'il y a beaucoup de préoccupations qui pourraient à nouveau surgir. Je pense qu'il y a une forte probabilité qu'en soulevant le niveau d'attention sur la justification générale et sur les motions de reconsidération particulière. Et donc, la seconde chose que je voulais dire, c'est que nous sommes, peu importe le type de. Nous ne sommes pas motivés par cette expérience particulière, mais. Pour beaucoup de raisons, mais en regardant à la justification et au processus pour les écrire et quels critères, et en essayant d'aller au niveau, d'augmenter le niveau, d'élever la qualité. Ils devraient être de nature informative et pas seulement pro forma. Donc, c'est une activité interne continue. Cela mis à part, la raison pour. Votre motion de reconsidération était vraiment concentrée sur cette décision plutôt que sur la justification. La justification est une sorte de un problème additionnel qui a été attaqué à la suite de cela. Le processus de reconsidération vise vraiment à demander. Et s'il y avait un processus de violation par le board ou le personnel, pas vraiment. Si la mauvaise réponse, on arrive à la mauvaise réponse, c'est un peu différent. Donc la question d'avoir, si on a le bon mécanisme pour les recours, est en cours de discussion avec l'équipe de révision, la seconde incarnation. Et je sais cela, je suis membre de ce groupe, mais je ne suis pas le moteur de ce groupe. Nous avons déjà parlé beaucoup là-dessus, mais vous devriez ne pas hésiter à fournir encore davantage d'informations là-dessus. Et je vous recommanderais de le faire, que vous parliez des spécificités de la reconsidération, si vous voulez. Mais je pense que probablement, la chose plus utile serait de parler du cœur de l'affaire. Comme vous savez, est-ce qu'on vous écoute? Est-ce que les bons problèmes sont abordés? Et il existe un mécanisme pour traiter cela lorsque vous pensez que l'erreur a été commise. Merci, Diavry. Donc, je pense que le processus n'est peut-être pas correct. J'ai Chérine, ensuite Bertrand, Steve Crocker. Je voulais faire un suivi. Avril Dora, David aussi, David Cake. Je voulais juste faire un commentaire de suivi. Nous comprenons que le processus prochain va au-delà, que va défier une décision. Donc ce serait plutôt devant les tribunaux. Je voulais vous laissez dire que nous avons l'intention de faire le suivi de ce processus et discuter cela, j'espère, et que cela formera une prochaine discussion. C'est Chérine et Bertrand et Mike, et ensuite Bruce, Diavry, Doria. Allez-y. Je voulais tout simplement reprendre beaucoup de ce que Steve a dit. Les statuts clairement définissent la demande de reconsidération de manière à empêcher les abus du système. Et il a dit que deux choses. Premièrement, quand il y a une contradiction, une action ou une omission de staff en contredit une politique établie ou bien une action du board ou est refusée d'être prise sans tenir compte des informations importantes, lorsque la demande de reconsidération ne doit pas regarder les justifications du cas hein, lui-même, si le cas est justifié. Je reconnais, et nous en avons parlé à TRT, qu'il devrait y avoir une forme de recours sur si le cas est justifié ou pas, et s'il doit être rejeté ou pas. Et dans la plupart des circonstances, il y a un manque de compréhension sur la demande de reconsidération. Les gens complètent la demande de reconsidération en se concentrant beaucoup sur la justification, si le cas est justifié ou pas, dans beaucoup d'instances. Je ne dis pas que particulièrement dans cette instance, mais ça ne passe pas le test, mais ils ne peuvent pas prouver aucun de ces points de base, d'accord? Dans le cas particulier de la demande de reconsidération, c'était 13.3. On a reconnu qu'il y avait une erreur. On a reconnu qu'il y avait une justification qui passait aller au-delà de certains domaines de politique à l'opposé de la mise en application qui n'était pas bienvenue. Et je pense que nous l'avons accepté cela et nous avons corrigé. Mais si on Et ce serait sans fin si on acceptait cela. Et ça va venir de tout le monde qui veut. On n'aura jamais fini, on ne pourra jamais finir. Donc, Avril Doria, merci. Nous aurons donc une demande de processus continuel. Allez, Bertrand. Bertrand, Chérine a soulevé un important argument. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le seul mécanisme de recours dans le panel ICANN. Il y a une tendance à supposer que cela couvre les deux. Alors que cela dit, on doit plutôt couvrir les problèmes de type procédural. J'espère qu'il y aura un mécanisme de correction qui pourra aborder les problèmes dans le fond. Et même dans le cas de la reconsidération 13.3, je crois que la question était de type de processus. Pendant la discussion, pendant le BGC au board, la préparation de la recommandation au board, j'étais contre et j'ai fait une déclaration qui devait être publiée au moment de la publication des rapports, des minutes, et j'étais contre pour deux raisons. La première chose, pour les questions de procédure, processus, quand quelque chose est de politique ou de, est mal mise en œuvre. Il y a un parallélisme de forme qui demande que lorsqu'une décision est modifiée substantiellement par une décision qui a été prise par, à un certain niveau par une certaine autorité, la procédure similaire devrait être prise. Donc le TMCH lui-même est un processus, à travers un processus, entre dans un processus d'appel. Il a été adopté grâce à deux groupes de travail et un vote par le conseil GNSO et un approuvé par le board dans l'adoption du livre de la, du candidat. Donc, toute modification substantielle de cette provision qui partait de, ne reprenait pas le TMSH exactement, devrait être suivi en même temps par des mécanismes de validation.
Alors, ce qui est en jeu, c'est la chose suivante. Lorsque, à mon avis, et je sais que je ne suis pas d'accord avec le reste de mes collègues, mais à mon avis, lorsque le GNSO a fait un commentaire explicite comme quoi il est question de politique, si le personnel pense que c'est une question de mise en application, ce conflit ne peut pas être résolu par un des partis, par le personnel dans ce cas-là. Cela aurait dû être ramené au board pour qu'il y ait une décision, que ce soit une question de mise en application ou de politique. Ce n'est pas quelque chose qui doit être décidé par le personnel, puisque c'était une des deux parties. Donc, à mon avis, cette reconsidération aurait dû être accordée, mais ce n'est pas dans ce sens que le consensus est allé. Merci. Mike. Oui, je crois que ce qui vient d'être dit me surprend, mais bon, j'imagine que ce n'est pas grave. Je répète, nous ne sommes pas une discussion basée sur le mérite, mais nous ne sommes pas un processus d'appel. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, ne discutez pas par rapport à ce que nous faisons. Dites-nous ce que vous souhaitez. Dites au ITRT ce que vous souhaitez. Passons. Si nous croyons en cette approche ascendante, eh bien, ne vous attendez pas à ce que nous allions vous dire comment les choses doivent être. Merci, Mike. J'avais Bruce et ensuite j'avais Shireen. Alors, Bruce d'abord, dit Avery Doria. Bruce Duncan, j'aimerais savoir le processus de reconsidération est utilisé. Attendez, je n'ai pas compris, dit Avery Doria. Nous avons utilisé le médiateur au début du processus. Mais pour ce point précis, Avery, il y a eu un médiateur initial, mais donc en fait, c'est une personne qui a amené ceci au médiateur sur la base de la légitimité. Alors moi, je voudrais faire un commentaire. Et de toute façon, je me suis abstenue. Donc, pour répondre à la question du board, et pour répondre à la question plus générale, je crois que Shireen y a répondu. Mon commentaire, d'une manière plus générale, c'est que maintenant, nous passons à une analyse indépendante. Donc, c'est beaucoup plus étroit. Je crois que le médiateur a probablement une envergure plus large pour résoudre le problème entre les deux parties. Et à la base, c'était une question d'infraction au statut. Donc, ce n'était pas vraiment une reconsidération du conseil ou du board. Et donc, je crois que ce qui est important, c'est de voir ce qui s'est passé, de voir vers l'avenir, de regarder l'avenir et ce qu'on peut faire à l'avenir. C'est plus productif, à mon avis. Je pense qu'il faut améliorer le processus, écouter votre point de vue et aller plus loin. Je crois que, dit Avery, abandonnons ce qui aurait dû se passer et passons au processus. Shireen, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire Bertrand. Bertrand a dit que ce n'est pas passé au board. Ben, c'est passé au board. Le conflit entre le personnel et le GNSO a été documenté dans la demande de reconsidération. Effectivement, le comité de gouvernance du board a reçu cette demande et ensuite le comité GTLD qui représente le board. Donc, je ne suis pas d'accord. Avri, merci. J'ai été informée. Nous avons dépassé les temps impartis. Nous ne sommes pas passés à notre dernier point à l'ordre du jour en termes de censure. On aurait bien aimé en parler, mais j'aimerais remercier le board pour le temps que vous nous avez accordé, pour les réponses, pour les reconsidérations. Nous aimons beaucoup vous écouter. Nous pourrions le faire à tout jamais, pour l'éternité. Merci beaucoup.
Sorry, Rudy. Me, they don't want me on the board. We tried that twice and it didn't work. Chair of what? I was chair of something once. Yeah.